Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Valérie Tabar, conseillère régionale écologiste et autonomiste, membre du groupe Braise à Glaize. Elle est avec nous après une nuit courte, je crois. Bonjour.
Bonjour. Oui, je rentre tout juste du salon de l'agriculture.
Voilà, on le disait pour les auditeurs. Bien entendu, nuit courte, mais qui vous a permis hier d'être dans les allées du salon de l'agriculture. Alors, vous allez nous raconter, évidemment, comment ça s'est passé. Un salon d'agriculture qui a connu un grand chahut à son inauguration par Emmanuel Macron. Est-ce que ça vous a attristé? Est-ce que ça vous a surprise? Ou est-ce que vous y attendiez?
Ça m'a pas mis à l'aise. Enfin, c'est un sentiment de malaise de voir un président de la République quand même chahuté à ce point-là. Et en même temps, je vais utiliser le en même temps de Macron. Et en même temps, ça n'est pas étonnant. Enfin, moi, je me suis remémoré à ce moment-là ma propre mobilisation et avec tant d'autres. Sur d'autres sujets, mais sur la réforme des retraites, hein, par exemple, et sur la surdité d'un pouvoir qui n'écoute pas la rue. Et donc, à un moment donné, ben, quand même, malgré tout, on récolte ce que l'on sème. Et donc là, on voit bien qu'on a une rupture, quoi, entre des dirigeants nationaux et une expression populaire. Même si, voilà, il y a un sentiment de malaise parce que on voit bien qu'on est dans un moment de violence extrême et qu'il faut pourtant retrouver le chemin du dialogue.
Il y a un grand désespoir du monde agricole, hein, on en a beaucoup parlé ici dans la matinale, un grand désespoir et surtout, vous le disiez Valérie Tabar, le fait d'avoir l'impression de ne pas être écouté par le pouvoir et qu'il y a aussi une forme d'improvisation, il faut bien le dire.
Oui, complètement. Complètement, ça tergiverse. Et puis là, c'est dramatique ce qui se passe, puisque la demande, hein, et moi je comprends le malaise agricole, hein, dans le fait, bon, déjà qu'on a perdu énormément d'agriculteurs, hein, on était à plus d'un million d'eux au milieu du siècle, on est à moins de 400 000 aujourd'hui, enfin, c'est quand même, c'est un plan social de sortie d'emploi de réduction mais majeure, donc forcément c'est ça rend mal à l'aise cette profession, mais surtout c'est une profession. Alors là, il faudrait regarder avec précision, parce que toutes les filières ne souffrent pas, tous les agriculteurs ne souffrent pas, mais malgré tout il y a un manque de reconnaissance, ça, globalement, et puis vraiment il y a un manque de revenus. Et particulièrement, moi, je pense aux éleveurs bovins, aux maraîchers. Je pense aux agriculteurs biologiques qui vivent une crise, alors qu'on avait demandé à ce que... Et parce que c'est dans le sens de l'histoire, hein, d'aller vers cette agriculture vertueuse.
Cette crise de l'agriculture bio, elle est aussi liée à la crise économique que nous traversons, avec une inflation importante, avec des gens qui ont du mal aujourd'hui, les Français, les Bretons, ont du mal à payer leurs factures, à vivre normalement, et donc on sacrifie un petit peu sur bien la nourriture et souvent sur le bio.
Oui, complètement. Complètement. Alors, j'avais pas fini pour dire que là où, ça tergiverse pour le pouvoir, c'est que on est en attente. Alors là, il vient d'annoncer le président Macron le prix plancher. Je sais que c'est beaucoup discuté, mais pourtant, c'était revendiqué par la Confédération paysanne, revendiqué par la gauche, porté aussi par. La gauche encore cet automne, enfin à la faveur d'une proposition de loi de LFI, hein, de la France insoumise, mais il faut travailler. En tout cas, les premières annonces ont été un recul environnemental, et c'est ce que j'ai entendu dans les rangées, les halls du salon de l'agriculture, y compris au sein des chambres d'agriculture, qui disent mais là on recule de 10 ans. Quand on fait comme ça, arrêt, pause, éco-fiteur, enfin, c'est pas un bon signal. Alors, pour revenir à votre autre question, moi, je crois que là aussi, le gouvernement, les dirigeants ont joué de la confusion en lançant d'autres labels, notamment le label HVE, haute valeur environnementale, qui n'a rien à voir, qui n'a rien à voir. Par rapport au label agriculture biologique, qui est vraiment très vertueux, mieux parce que c'est sans pesticides et où les gens sont, d'ailleurs payent eux-mêmes, il y a une indépendance, payent eux-mêmes le contrôle par un organisme indépendant qui vient contrôler chez eux. Donc là, il y a eu de la confusion chez les consommateurs. Et oui, il faut tenir les deux bouts aujourd'hui. Mmh. Mais il y a un vrai partage des richesses. Parce que pendant que des agriculteurs ne vivent pas bien et que des consommateurs ont du mal à acheter des produits sains, bons pour la santé et des produits français, eh bien, il y a des gens qui se font de l'argent. Enfin, l'action qui a été faite, là, encore une fois, par la Confédération Paysanne, mais au siège de Lactalis, elle a beaucoup de sens. Mmh. Hein. On sait que là, il y a une situation de rente. Donc, il y a quand même des gens qui ont à rendre des comptes aujourd'hui.
On a vu sur le salon d'agriculture aussi, le stand de Lactalis a été quand même très chahuté par les agriculteurs qui demandent des comptes finalement.
Oui, bien sûr. Mais c'est normal. Je crois que là, il y a vraiment pour l'agriculture le sujet de du partage de la valeur. On doit être rémunéré dignement pour le travail. Et aujourd'hui, en plus, on doit être rémunéré pour les services environnementaux que l'on rend à la société. Donc oui, dès lors que l'on s'engage pour la qualité de l'eau, pour le bocage, pour les paysages, pour offrir une alimentation pour le quotidien des Bretons, des Bretonnes, des Français, des Françaises, et une alimentation de qualité saine, alors on doit être rémunéré. Donc, j'espère qu'on va, parce qu'on est dans une perspective en plus d'élections européennes.
On va en dire un mot.
Ou moi, je vais vous dire, c'est glaçant pour moi. Si la première, et on n'y est pas, parce qu'on va se battre. Moi, je mets en garde les auditeurs. Si la première représentation française, ce sont des parlementaires issus de l'extrême droite, du RN, je trouve ça glaçant. Des responsables, enfin des responsables, ils n'ont jamais été en responsabilité, mais des personnes engagées en politique qui ne font que tergiverser encore aujourd'hui, qui sont démagogiques, qui disent ce qui plaise qui vont dans le sens du poil, mais quand on regarde leur vote, c'est tout à fait contradictoire. Ils ont voté la PAC. Ils ont voté la PAC qui est profondément injuste et inégalité. Donc, moi, je suis dans un mouvement Ensemble sur nos territoires. On est pro-européen, mais on souhaite évidemment une réorientation de la PAC qui soit beaucoup plus favorable. 20% des aides, 80% des aides vont à 20% des agriculteurs en France. Est-ce normal? Non.
Il n'y a pas une bonne répartition finalement.
Non, il y a une très mauvaise répartition. Le chiffre est éloquent. Hein. 80% des aides vont à 20% des agriculteurs en France. Et donc, on sait très bien qu'il y a un rééquilibrage, y compris pour la Bretagne. Plus vers la Bretagne, évidemment.
Bretagne, terre agricole, s'il en est. On voit aussi à travers ces futures élections européennes, mais aussi à travers la colère paysanne, que l'Europe est pointée du doigt. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il faut sortir de l'Europe, mais on sent quand même que l'Europe est pointée du doigt. Est-ce qu'il faut peser, et ça nous amène directement aux élections européennes, est-ce qu'il faut peser beaucoup plus sur la politique européenne? Alors, en matière agricole et dans d'autres domaines également.
Il faut peser, mais justement, il faut se préparer aux prochaines élections européennes. Qui on envoie comme représentation française par le Parlement européen? D'une part, moi, je crois qu'il faut des gens qui soient pro-européens, ça n'est pas le cas du RN, du parti d'Éric Zemmour, absolument pas. C'est des gens qui ne sont pas pour l'Europe. Alors aujourd'hui, ils vous disent non, on n'est pas pour le Frexit. Enfin, bon, c'est quand même ceux qui ont défendu le Brexit, qui ont été promoteurs du Brexit. Et alors, ils nous disent maintenant oui, mais ça, c'est pas pour la France. Enfin, bon, hein, ils ne sont pas pour l'Europe. Donc, il faut absolument envoyer des pro-européens. D'ailleurs, le président de la Chambre d'agriculture hier a eu un propos en inauguration de l'espace Bretagne aux côtés du président de l'Exchénaire et Gérard, moi je suis dans l'opposition, mais bon, j'ai assisté à ce moment, a eu une parole très forte sur l'Europe, tous les deux, et sur aussi, sans doute, qu'il faudra avancer sur l'Europe fédérale, d'autant plus si on intègre l'Ukraine. Donc, en fait, aujourd'hui, pour répondre à la crise agricole, parce qu'on est dans un contexte géopolitique aussi compliqué, agressif, avec la Chine, la Russie qui agresse l'Ukraine et qui menace déjà l'Europe. Donc il nous faut des parlementaires européens qui soient vraiment pro-européens, qui sachent reposer des bases d'une politique européenne qui protège les Européens, qui protège les agriculteurs et qui permettent vraiment de situer l'Europe dans sa place dans le monde sans renier à ses valeurs d'ouverture, d'accueil et vraiment. Il nous faut donc des parlementaires progressistes. Moi, j'incarne une gauche de la social-écologie et donc je vous laisse deviner vers qui mon choix se porte.
Voilà, on l'aura compris à demi-mot. Valérie Tabar, l'Europe aujourd'hui, c'est aussi, et vous en avez dit un petit mot, l'Ukraine. Cette crainte du monde agricole que l'Ukraine entre rapidement dans l'Union européenne, parce que voilà, elle générerait beaucoup d'aide, alors on parle de 13 milliards d'euros, au détriment des agriculteurs français. Est-ce que là aussi, il y aura des grands équilibres à arbitrer ?
Oui, complètement. Et c'est vrai que ça ne peut pas se faire rapidement, l'entrée de l'Ukraine. Alors aujourd'hui, moi, je sépare deux choses. C'est-à-dire l'aide à l'Ukraine, pour viser les guerres. Je ne dis pas des soldats comme l'a annoncé Emmanuel Macron et qui d'ailleurs n'est pas suivi. Mais moi, je suis avec beaucoup d'attention. Ce que défend par exemple Raphaël Glucksmann sur le fait de vraiment d'aider et d'aider au niveau matériel l'Ukraine. Et ça, je crois que la gauche en général est vraiment, et aussi les écologistes sont sur cette position-là. Donc il faut aider l'Ukraine parce que c'est aider l'Europe et c'est nous, nous protéger aussi, nous les Ukrainiens et nous aussi. Et puis par rapport à l'entrée de l'Ukraine en Europe, j'y suis favorable, mais en effet ça ne peut pas se faire rapidement. Il faut le faire étape par étape parce que ça peut très vite déséquilibrer. Et quand on parle du poulet ukrainien aujourd'hui qui vient déstabiliser ça ne profite pas d'ailleurs là aussi au peuple ukrainien, parce que vous savez, c'est aux mains d'un milliardaire. On parle de le roi du poulet en Ukraine, mais enfin, là aussi, le modèle social autour de la production de volailles en Ukraine, elle est largement critiquable. Et ce n'est pas ce modèle-là que l'on veut promouvoir.
Voilà, on est sur des très grandes exploitations commerciales, on pourrait le dire comme ça. Il y a cette parole présidentielle, là aussi, on raccroche les sujets, comme l'on dit, cette parole présidentielle qui a, on va dire, surpris en ce début de semaine. Une guerre n'est pas à exclure. On pourrait envoyer des troupes éventuellement européennes sur le sol ukrainien. Est-ce que c'est dangereux de parler comme ça de la part d'un président de la République ?
Alors, c'est vrai qu'il n'est pas suivi. Moi, j'en dis pas plus. Vous voyez, je suis conseillère régionale. Je ne suis pas forcément sur ces sujets-là en premier lieu. Ce que je viens de le dire, je crois beaucoup plus ce que la gauche défend, c'est qu'il faut aider matériellement en armes. Je suis pacifiste, mais bon, quand on est agressé, il y a une défense à avoir et je ne crois pas que c'est l'annonce d'Emmanuel Macron est crédible puisque on voit bien qu'elle n'est pas soutenue par ses partenaires européens et non plus par de nombreux responsables de gauche dont je fais confiance dans la vision géopolitique.
Alors de la géopolitique on va revenir à la politique. Vous parliez du RN tout à l'heure, Valérie Tabar, qui a des intentions de vote élevé pour ces élections européennes. Est-ce que dans les rangs des agriculteurs, on l'a dit, le RN progresse ? Est-ce que vous avez ressenti ça, vous, en déambulant dans les allées du salon ?
Oui, quand même. Oui. Et vous voyez, j'ai même eu un échange avec un producteur en agriculture biologique et aussi au sein de l'agriculture biologique. Il peut y avoir, en effet, une progression des électeurs RN. Donc moi, ça me ferait. Alors, c'est pour ça que moi, je participe à un mouvement Ensemble sur nos territoires, hein, qui est un mouvement de la gauche, de la social-écologie, et particulièrement avec ma collègue Azilis Gouaz, hein, qui est conseillère régionale avec moi, au sein du groupe Brézéglaise. Il y a deux composantes, l'UDB, l'Union démocratique bretonne, et Ensemble sur nos territoires. Donc, avec Ensemble sur nos territoires, on organise une journée, et j'étais pour ça hier aussi au salon, pour parler de cet événement, et ça, c'est important, une journée, et j'invite aussi les auditeurs et auditrices intéressés à venir, parce que c'est très ouvert. Le samedi 16 mars à Morlaix, on organise une journée de dialogue sur l'avenir de l'agriculture bretonne, avec le titre « Réussir les transitions en sortant des affrontements », avec vraiment l'idée que le chemin de la transformation agroécologique, le cap de la transformation agroécologique n'est pas négociable. C'est pas négociable. Aujourd'hui, on doit avoir la boussole du climat, la boussole de la biodiversité, la boussole de la santé qui doit guider. Mais par contre, ce cap n'est pas négociable. Les scientifiques, il faut écouter les scientifiques le disent. Voilà. Par contre, le chemin est négociable. Et c'est comment on fait. Mmh. Et bien sûr, on peut pas avoir des ruptures. Il y a de l'angoisse aujourd'hui. Il y a de l'angoisse dans les campagnes. Il y a de l'angoisse aussi chez les ouvriers de l'agroalimentaire. Quand ils entendent comme ça un discours écologiste, ils se disent, mais ça veut dire quoi par rapport à mon travail? Donc nous, on met les choses sur la table, on réunit les gens, c'est-à-dire que je viens d'un mouvement, le MRJC, qui était la JAC avant, qui a porté une génération, qui a formé une génération, qui a porté cette page de modernisation, de productivisme en Bretagne, avec la loi, ça donnait lieu à la loi d'Edgar Pisani, les lois de modernisation 60-62. Et ben aujourd'hui, il faut vraiment, mais vraiment, ouvrir une autre page. Alors, des agriculteurs, hier, j'ai discuté, les agriculteurs disaient, mais écoutez, on est déjà en transition, on a toujours été en transition. Oui, mais entendons-nous bien, il s'agit bien de vraiment donner un cap à 40, 50, 60 ans de l'agroécologie. Et l'agroécologie, il va bien falloir se redire ce que c'est. C'est pas juste mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit, c'est déjà bien. C'est pas juste mettre des trackers. C'est pas juste ça. C'est redimensionner l'agriculture aux capacités de la Bretagne, de ses sols, de son air, de son eau. Ça veut dire revenir à un élevage lié au sol. Alors là, encore une fois, moi, je stigmatise pas les productions hors sol, les producteurs qui sont hors sol. Mais c'est de dire que l'avenir doit être autre. C'est aussi réduire et envisager la sortie complète des pesticides parce que ça pose question. Ça pose question. Et que tout de suite, on va dire chute de rendement. J'ai discuté hier avec aussi des gens engagés, des gens de la Chambre d'agriculture et qui disent que dans les stations expérimentales, ils arrivent à moins 80%. Mais c'est énorme. Alors maintenant, il faut le levier financier, le levier réglementaire pour permettre aux agriculteurs, aux agricultrices vraiment d'y aller dans ce sens-là.
Alors, il y a souvent une peur de l'écologie dans le monde agricole. On dit, les écologistes, ils vont nous embêter. Des fois, le mot est plus marqué. Ils vont nous embêter, ils vont nous rajouter des normes. On en a déjà beaucoup. Est-ce qu'il va y avoir un grand moment pour convaincre, finalement, le monde agricole de changer, même s'il commence sa transition, sa mutation? Mais est-ce qu'il va falloir longtemps, très longtemps, convaincre avant d'arriver à un modèle qui
bouge? Je crois que les agriculteurs et les agricultrices sont convaincus du changement climatique parce que c'est eux qui sont aux premières loges pour l'observer. Épisode de sécheresse, pluie, enfin, voilà, ils le voient. Effondrement de la biodiversité, ils le repèrent. Donc ils en sont convaincus. Mais c'est comment on fait. Et en effet, on ne peut pas les laisser. C'est pour ça que c'est irresponsable aujourd'hui, les annonces de Gabriel Attal. C'est irresponsable parce que et quand il y a eu l'annonce du prix plancher, moi c'est très bien, prix rémunérateur, mais maintenant mettons-nous autour de la table pour voir comment ça peut se passer pour, en effet, que ça se passe dans un moment où aussi, eh bien, on rompe avec des accords de libre-échange parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, de créer un appel d'air plus avec des produits importés. Puis comment on fait parce qu'il faut différencier selon les régions, un prix rémunérateur sur les produits. Et puis comment on fait au sein de l'Europe aussi, parce que là aussi, il ne va pas falloir que ça exacerbe une concurrence déloyale. Donc moi, je pense que voilà, donc il y a une irresponsabilité, on va droit dans le mur et il n'y a pas les réponses à la hauteur. Il y a des agriculteurs et les agriculteurs et les agriculteurs agricultrices sont conscients. Voilà. Mmh. Maintenant, maintenant, il faut réussir à les aider à prendre le chemin. Et moi, moi, j'incarne, et avec ma collègue Azélis Gouez, on est toutes les deux issues du milieu agricole. Voilà. Moi, je n'ai jamais quitté le milieu agricole. Mon activité professionnelle, elle est dans l'agriculture, alors avec une certaine agriculture, mais je porte une réalité agricole.
Vous connaissez le terrain.
Je connais, je suis issue du sud de Morbihan, j'ai grandi dans une ferme laitière. Azilgoas, c'était une ferme de vaches allaitantes, de viande bovine. Donc, et puis l'équipe Ensemble sur notre territoire, toute l'équipe, Ronan Dantec et d'autres, on est attachés à ça, à cet ancrage dans les territoires ruraux, cette capacité de mettre les sujets sur la table, sans tabou, mais avec un grand respect. Voilà. Le respect, j'entendais, je me reconnaissais bien Gérard Gruot, qui est directeur du CNRS et qui suit beaucoup le sujet de l'eau, et qui disait il faut avoir la préoccupation du poids qui est sur l'épaule de l'autre quand on lui parle, quand on lui parle de changement. Et ça, je crois que c'est ça. Donc, on met les sujets sur la table, sans tabou, mais avec un grand respect.
Et ce respect, c'est aussi associer finalement le monde agricole. On a l'impression aujourd'hui que les réponses gouvernementales, bien voilà, ça part du haut de la pyramide, mais on n'associe pas le monde agricole, le monde paysan aux décisions qui le concernent directement.
Si, parce qu'on peut dire que, alors, on est en situation de cogestion depuis des dizaines et des dizaines d'années. Maintenant, c'est la question de la représentation. Est-ce que vraiment la représentation aujourd'hui est cogestion avec la FNSEA? Est-ce que vraiment cette représentation avec M. Rousseau à la tête, est-ce qu'elle représente vraiment l'agriculture? Alors, elle est diverse, l'agriculture française, mais enfin, est-ce qu'elle représente la grande majorité qui sont quand même des fermes familiales? Est-ce qu'elle représente ça? Moi, j'ai une grosse question quand même. En tout cas, moi, je vois qu'on a, avec Ensemble sur notre territoire, cette capacité à être en échange avec le monde agricole. André Sergent, le président de la Chambre d'agriculture de Bretagne, sera présent. Rémi Cristoforetti, qui est le PDG de Gouessan, président de la BEA, de l'agroalimentaire, sera présent. Et il faut discuter avec les opérateurs économiques pour prendre bien. Arnaud Clujery, délégué opérationnel d'Eau et Rivière, sera présent. Arnaud Lécuyer, vice-président de la région, sera présent le samedi 16 mars à Morlaix. On met, et j'en passe, il y a le sénateur Daniel Salmon, écologiste, on met tous ces gens autour de la table pour discuter. Moi, j'invite les gens à aller voir le programme. On communique sur les réseaux sociaux autour de cet événement, parce que c'est un premier jalon que nous voulons poser. C'est pas un colloque, un énième colloque qui se rajoute à un autre. C'est vraiment un premier jalon en se disant que la Bretagne, elle a cette capacité de dialogue et de coopération.
La Bretagne peut être en fait une région un peu pilote justement pour ce changement de modèle agricole.
Complètement. Elle a su le faire dans les années 60. Voilà, on est sorti d'une misère, il faut le dire. Et puis ça a été magique, les engrais, les pesticides, la mécanisation. Il y avait moins de pénibilité. Il faut le reconnaître. D'ailleurs, notre première table ronde, c'est et si on exerce un droit d'inventaire, on s'autorise un droit d'inventaire, parce que souvent on est figé. C'est il y a de l'emploi, bien sûr. Et d'ailleurs, il faut pouvoir redire toute cette histoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on garde? Parce qu'il y a des principes importants, mais de quoi on se déleste aussi? Le livre de Nicolas Legendre aussi a été important le fait de... il a été décrié, je l'entends dans le milieu agricole, il a le prix de Albert Londres, qui montre bien son travail d'investigation de qualité, qui montre bien qu'à un moment donné, il y a une espèce d'omerta, on n'arrive pas à mettre des sujets sur la table. Donc la Bretagne, elle était capable. Donc et maintenant, c'est pas on met le couvercle et on bouge, mais à la marge, ou on bouge, mais chacun est seul sur sa ferme. Non. On a un récit collectif à construire ensemble. Donc il faut qu'on dialogue et qu'on se parle, qu'on échange, qu'on réfléchisse, qu'on accepte de bouger les uns les autres et qu'on écrive ce nouveau récit collectif pour la Bretagne.
Est-ce qu'il faut sortir finalement d'une forme de militantisme, ce qui fait peur souvent au monde agricole? On dit on a les militants écologistes, ils veulent nous embêter.
C'est vraiment notre on est clairement situé politiquement là où on est, gauche, sociale, écologie, mais on a le souci On a le souci dans cette journée de Morlaix que nous préparons de sortir de l'entre-soi militant. Et d'ailleurs, moi je suis assez interloquée et agréablement surprise, c'est que tous les interlocuteurs l'attendent. Mmh. Tous les interlocuteurs l'attendent. Que ce soit les représentants officiels de la, enfin les représentants actuels au sein des chambres, la FED, mais les militants environnementalistes. Mmh. Voilà. Enfin, en tout cas, partout il y a des gens qui ont qui se voit bien qu'il y a ce besoin de dialogue, et partout il y a des gens qui ont cette capacité de dialogue et de réflexion et de volonté de construire des ponts.
Alors, il nous reste 3 petites minutes. Je voulais qu'on parle d'un autre sujet qui n'est pas agricole, mais qui va concerner la femme politique que vous êtes. Hier, le Sénat a voté l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Alors, on a entendu des voix dissonantes qui disaient « oui, il n'y avait pas forcément besoin de l'inscrire », et d'autres voix qui, au contraire, disent « voilà, il pèse sur les femmes quand même le risque que, bien un jour, on dise « l'IVG, c'est fini, c'est passé dans certains États américains, il faut le dire ». C'était important que ce soit inscrit dans le marbre.
Bien sûr, bien sûr, vraiment, je me réjouis dès hier soir. Enfin, j'ai suivi, j'ai reposté un post de Ronan Dantec, qui est le président d'Ensemble sur nos territoires, qui est sénateur, parce que le groupe écologiste au Sénat, et avec Mélanie Vogel, écologiste, qui s'est largement mobilisé. Mmh. Derrière ça, il y a eu aussi l'Union de la gauche, très, très largement mobilisée. Il y a eu des voix dissonantes, mais moi, je remarque quelque chose, et on se réjouit par les temps qui courent, quand on a souvent des reculs, c'est que le Sénat a adopté, donc oui, ça va être en congrès maintenant, oui, mais a adopté la constitutionnalisation, enfin dans la Constitution, le fait de reconnaître cette liberté donnée aux femmes. Avec une liberté qui est garantie.
Une large majorité, oui, hein, il n'y a eu que 50...
Mais je crois que Mélanie Vogel, et ça rappelait le débat qu'il y avait dans le cadre du débat sur le mariage pour tous, c'est qu'à un moment donné, elle a regardé droit dans les yeux les sénateurs et sénatrices en disant, sa formule, je ne la reprendrai pas complètement correctement, mais c'est de dire que diront vos filles, vos mm-hmm. petites filles, vos nièces. Hein, et ça a été c'est la même chose qu'avait dit Christiane Taubira. Pensez à vos petites filles, à vos petits enfants, pas plus que petites filles d'ailleurs, hein, parce que la reconnaissance du mariage homosexuel, aussi, hein, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est fort de t'interpeller les responsables politiques sur à un moment donné, prendre la vague de l'histoire et de la progression et de l'ouverture des idées.
Alors 50 sénateurs, ceci dit, n'ont pas voté pour l'inscription de l'IVG. Alors certains disent, voilà, c'est simplement constitutionnel. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire aujourd'hui, même si ça ne va peut-être pas les convaincre?
C'est qu'à un moment donné, il y a une hiérarchie quand même juridique, et que de le reconnaître dans la Constitution, c'est plus difficile pour l'attaquer, c'est ça. Ça vient vraiment dire que c'est un droit fondamental. Et on le reconnaît à un moment donné. Ça fait partie de notre civilisation humaine que de reconnaître que, pour les femmes, vous savez, il n'y a pas, je crois, d'avortement de confort. Hein, mais c'est compliqué de gérer toute une vie, une contraception ou, selon des circonstances, le fait de ne pas de se retrouver peut-être à un moment donné enceinte et de ne pas avoir le désir ou la capacité et avoir du mal à l'assumer. Donc, c'est important. C'est important.
C'était une décision, on pourrait qualifier d'historique.
Oui, je pense. Oui, je pense. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup d'émotions hier soir. Et moi, je peux dire que je me suis réjouie. Et oui, c'est historique. Oui, c'est important. D'autant plus quand on voit la menace, les menaces qui courent, avec un rassemblement national et qui est aux portes du pouvoir. Malheureusement, pourtant... parce que avec vraiment, voyez, moi, j'ai eu Gilles Pénel en débat, le leader du RN, et je lui ai dit, je reconnais votre art oratoire, mais après, aucune proposition concrète. Dans une même phrase, il vous dit tout et son contraire. Dans une même phrase. Et il s'abstient de dire comment il va faire. Donc, à un moment donné, il y a beaucoup de démagogie, beaucoup d'à peu près. Alors, ils se sont organisés, ils deviennent plus professionnels, ils ont une capacité oratoire, ça c'est évident, mais il faut quand même regarder donc déjà leurs contradictions, leur démagogie, dire ce que les autres veulent entendre. Voilà, à un moment donné, Jordan Bardella, quand il s'était déplacé, là je reviens à l'agriculture, mais dans ses premiers déplacements à Bordeaux, c'était quand même tout de même, il disait de sortir de l'Europe. Donc, et surtout le fond idéologique du RN, qui est raciste, excluant.
Et c'est là-dessus qu'on va terminer. Valérie Tabar, on vous aurait écouté encore longtemps, mais l'heure, c'est l'heure. Merci d'avoir été avec nous, Valérie Tabar, conseillère régionale, écologiste et autonomiste, membre du groupe Braise Anglaise, était avec nous ce matin de retour du Salon de l'Agriculture. Je l'en remercie, je vous souhaite bon repos et belle journée.
Oui, on va se reposer beaucoup.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.